Fréquence protestante. Intermezzo. L'actualité de la scène musicale. Hélène Pirakos.
Bonjour, Intermezzo est consacré aujourd'hui à une rencontre avec Christophe Touchard, ingénieur et altiste, auteur d'un livre intitulé « Un alto pour passeport, une année autour du monde », publié aux éditions lausannoises Favre, dans lequel il relate le voyage hors du commun qu'il a entrepris et mené à bien. Il nous en raconte la naissance et les étapes. Christophe Touchard.
C'est un projet qui est né en 2018. Donc 2018, je traversais une partie de ma vie un peu complexe, entre donc liée en particulier à une rupture douloureuse après 10 ans de vie commune. Et il s'avère que je suis musicien, donc je joue de l'alto, qui est un grand violon. Et j'avais des rêves de voyage depuis déjà pas mal de temps. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas prendre ce temps que j'ai là devant moi, ce moment d'interrogation personnelle, pour partir voyager. Et donc, je me suis dit, naturellement, je vais partir avec mon alto. Alors, ça s'est fait via un déclic au moment du festival de jazz à Marciac, où j'écoutais les sœurs Labeck jouer du piano, elles jouaient le boléro de Ravel, et elles dégageaient une énergie tellement telle face au public que je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je prenne mon alto et que j'aille à la rencontre de personnes autour du monde avec mon instrument.
Il y a une question qui se pose d'emblée, que d'ailleurs vous traitez assez vite, en fait, qui est de savoir si c'est d'abord un projet de voyage associé au projet d'un écrit sur ce voyage, ou bien le projet de l'écrit est venu tardivement?
Alors, le projet de l'écrit est venu tardivement. J'avais quelques bribes d'idées quand même avant le voyage, parce que j'ai découvert la littérature de voyage. J'avais découvert la littérature de voyage, une vraie passion pour la littérature de voyage, quelques années avant de partir. Et ça m'avait en particulier beaucoup aidé, au moment où je me posais énormément de questions dans ma vie, à franchir des étapes. Parce que souvent, les voyageurs, et c'est ce que j'écris d'ailleurs dans le livre, on est sur la route pour une raison plus profonde que le simple goût de la découverte. Et donc, je m'étais dit, mais si moi-même, je tire du positif de ce voyage, ça serait peut-être intéressant que je le couche sur le papier pour alimenter les réflexions d'autres personnes qui pourraient se poser des questions dans leur vie. Donc, j'avais un peu ces quelques idées, on va dire cette petite graine qui était quand même dans le fond de ma tête. Mais la vraie révélation s'est effectivement faite au cours du voyage, de par les échanges que j'ai eus. Donc, ça a été une vraie volonté d'aller à rencontrer énormément de voyageurs, de locaux aussi. Et donc là, mon alto a été un passeport formidable, donc d'où d'ailleurs le titre « Un alto pour passeport ». Et de ces rencontres, finalement, les personnes m'ont dit « mais c'est extrêmement intéressant tout ce que tu vis, tout ce que tu nous partages. Pourquoi est-ce que tu le ferais pas de manière plus large au travers d'un récit de voyage ?»
Et
donc là, la graine, voilà, et la graine avait complètement germé, l'arbre a poussé dans la tête, et c'est devenu ce récit de voyage.
Alors, vous dites assez tardivement dans le livre, vraiment dans le dernier tiers, si je crois bien, j'ai pas noté la page, que tout votre projet se fonde sur 3 enjeux, géopolitique, environnemental et culturel. Et au fond, oui. On voit bien tout au long des lieux par lesquels vous passez et toute votre réflexion sur tous ces pays qui ne vous étaient pas familiers auparavant, il y a vraiment une réflexion croisée selon les lieux. Évidemment, c'est plus ou moins géopolitique, plus ou moins environnemental, plus ou moins culturel, mais c'est ça qui fait aussi tout le très grand intérêt, je trouve, du livre. C'est-à-dire que El Sistema est quand même votre motivation première, j'ai l'impression, de faire
tout à fait.
Enfin, vous vouliez en fait aller explorer ce que fait El Sistema à travers le monde, ou bien vous en inspirez pour faire quelque chose à votre retour?
Non, c'était plutôt un objectif de valoriser ce que font ces associations qui sont quand même assez peu connues et qui font pourtant un travail absolument fantastique. Donc, pour rappeler un peu leurs objectifs, donc ces associations qui sont plus de 300 dans le monde, elles œuvrent à accompagner des enfants dans des quartiers difficiles pour leur amener l'apprentissage de la musique, principalement en orchestre. Et donc, on retrouve aussi un objectif de donner des nouvelles clés à ces enfants qui n'auraient pas eu la possibilité d'allier musique et enseignement plus traditionnel. Donc, j'avais envie de mettre en avant ces associations. Et donc, ce qui s'est fait au travers de leurs rencontres et de petits reportages vidéo que j'ai publiés sur mon site internet. Mais j'avais pas forcément de volonté de me dire je vais leur apporter quelque chose, ou parce que ils ont déjà des personnes extrêmement motivé, plein de ressources qui accompagne ses enfants. Donc, c'était plus une envie de mettre en valeur leur activité. Et puis, effectivement, comme vous le dites... Pardon, oui, allez-y.
Non, allez-y.
Et donc, oui, ce que je disais, comme vous l'avez dit, effectivement, après, au fur et à mesure du voyage, cet aspect culturel s'est ouvert sur de la géopolitique et puis une prise de conscience aussi environnementale. Donc, ça a été un aspect très formateur, je dirais, presque dans ce livre et enfin surtout dans ce voyage, c'est de réaliser que le monde changeait très très rapidement et que je devais agir vis-à-vis de ce changement climatique.
Il y a un aspect du livre que je trouve très habile, même si ça s'est fait peut-être malgré vous cette habileté, mais quand on le lit, c'est une qualité, c'est que au gré de tous les paysages et les personnes que vous rencontrez, vous revenez régulièrement de façon très touchante pour le lecteur à vos propres origines. Par exemple, devant l'Atlantique ou devant un autre océan, vous dites « Je suis moi-même d'origine vendéenne, je connaissais la forêt de pins, mais au fond, ces forêts de pins vendéennes, elles sont très peu naturelles, elles sont entièrement entretenues pour, etc. » C'est beau, ça, ce passage constant de vos réflexions très universaliste et très politico-environnemental sur l'état du monde et sur votre histoire à vous, de façon modeste, en vous considérant en fait comme un être humain parmi d'autres qui a une expérience qui peut être éclairante.
Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que ces réflexions se sont faites, alors j'ai une tendance à beaucoup penser, à beaucoup réfléchir, et donc pendant ce voyage, j'ai eu énormément de moments qui étaient propices à cette réflexion.
En particulier de solitude aussi.
Exactement, voilà, de solitude, de moments où je suis dans la nature ou simplement dans les transports en commun. Et donc forcément, j'ai eu propice à avoir beaucoup de réflexions que j'ai couchées sur le papier pendant mon voyage, donc au travers de récits assez sommaires, mais voilà, des prises de notes. J'ai quand même plus d'une centaine de pages de prises de notes à la fin du voyage. Et donc toute cette réflexion a nourri le récit final, alors qu'il s'est même au fur et à mesure de l'écrit également enrichi, parce que j'ai eu d'autres pensées qui sont nées, et j'ai trouvé d'ailleurs ces exercices d'écriture, donc c'était la première fois que j'écrivais un livre très enrichissant et très intéressant, parce que ça nous force à aller au fond de notre pensée, d'être clair aussi pour le lecteur, et donc ça a été un exercice passionnant d'écriture.
Vous parliez tout à l'heure de El Sistema, pourquoi c'est en espagnol et d'où ça vient-il? Parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'El Sistema, qui a donné naissance d'ailleurs à de très grands musiciens dans le monde. Le
tout
chef
à fait.
Vénézuélien, dont j'oublie le
Gustavo, voilà. Oui, voilà. Gustavo Dudamel, tout à fait.
Voilà.
Effectivement, donc, El Sistema, donc, c'est né au Venezuela dans les années 1970, donc à une époque où le Venezuela souhaitait investir l'argent. Alors, ils avaient quand même pas mal d'argent venant du pétrole à cette époque-là, donc ils ont souhaité réinvestir ces profits dans l'éducation des enfants. Et donc, comme il y avait beaucoup d'inégalités, ils ont eu l'idée au travers d'un chef d'orchestre qui s'appelait José Antonio Abreu de créer ce mécanisme El Sistema, donc qui s'est répandu comme une traînée de poudre au Venezuela, qui existe toujours aujourd'hui, qui forme, comme vous l'avez dit, certains musiciens internationaux comme Gustavo Dudamel. Je pense que c'est l'emblème phare de ce programme. Et puis, du Venezuela, ça a fait des émules un peu partout dans le monde. Et donc, ça a nourri d'autres programmes, alors qu'ils sont tous indépendants. Ils sont pas rattachés au Venezuela. Donc, chaque programme est indépendant, mais reprend les concepts d'El Sistema Venezuela.
Voilà. Vous rappelez d'ailleurs à un moment, ça parle comme phrase. Moi, j'avais jamais vu cette phrase-là, même si je me doutais que c'était l'esprit de ça, El Sistema. C'est que l'orchestre est considéré comme une société idéale. Et que du coup, faire de l'orchestre est une éducation à la fille au sens propre, au fond.
Oui, tout à fait. Alors cette phrase n'est pas de moi. cette pensée est de José Antonio Abreu, qui était le fondateur d'El Sistema et qui avait vraiment cette vision que je trouve très chouette. Et puis pour moi-même, être musicien d'orchestre, l'avoir vécu, c'est qu'effectivement, quand on est en orchestre, on doit tisser des liens qui sont des liens sociaux, ne serait-ce alors au sein d'un pupitre ou les pupitres entre eux. Et donc, c'est une image finalement d'une mini-société qui doit apprendre à coexister, à cohabiter ensemble en vue de créer un objectif commun qui est la réalisation d'une œuvre musicale. Donc, on trouve effectivement des liens assez logiques entre la société telle qu'elle est au jour le jour et la société musicale au sein d'un orchestre.
En revenant à l'alto, et puisqu'il y a votre instrument, donc Christophe Touchard, pour ce livre « Un alto pour passeport », puisque vous avez parcouru le monde entier, y compris des régions très inhospitalières au point de vue climatique, au point de vue même politique, avec votre alto sous le bras. Vous l'avez d'ailleurs perdu à un moment, on a peur pour vous pendant quelques temps, oublié dans un bus, c'était quand même… ça devait être un objet si précieux que c'est étonnant, c'est presque une sorte d'acte manqué pour arrêter votre voyage ou quoi.
Je ne dirais pas acte manqué parce que je m'en suis quand même beaucoup voulu, mais heureusement je l'ai retrouvé. Oui.
Alors en tous les cas, au long de ce livre, vous l'annoncez là aussi au début avec un QR code. Ce qui est très beau, je trouve, c'est que vous proposez en scannant ce QR code d'accéder à un certain nombre de musiques qui pour vous sont des musiques un peu clés ou bien des musiques qui sont émouvantes à différents titres. Et un certain nombre de vos chapitres, qui sont au nombre de 61, si je ne me trompe, pour un livre de 300 pages, c'est quand même assez important, sont liés à une petite note qui renvoie à une musique, mais qui n'est pas forcément une musique de ces pays-là, qui est pour vous une musique clé. Par exemple, les Sœurs Labeck, par exemple, un musicien de jazz, par exemple. Comment vous avez conçu le choix de ces musiques?
Alors le choix s'est fait soit parce que au cours de ce voyage il y a eu un moment une musique qui a été révélatrice ou qui a provoqué un mouvement, et donc je me suis dit puisqu'elle a été initiatrice d'un mouvement chez moi, autant la faire partager aussi au lecteur, donc lui faire écouter des pièces qui ont été fondatrices. Et puis aussi une volonté de faire voyager en musique, et donc j'ai essayé de rattacher en fonction des régions traversées des thèmes ou des instruments. Alors par exemple, quand on va partir en Asie, j'essaie de trouver des thèmes joués par des instruments locaux qui vous permettent de vous immerger dans la culture musicale du pays et d'avoir en parallèle de la lecture une immersion dans le pays sonore.
Mais on a aussi des musiques parfaitement classiques. Par exemple, j'ai lu avec des souris en lisant page 38, au début du chapitre 5, Nikolaï Rimsky-Korsakov chez Erazade, orchestre du théâtre Mariinsky dirigé par Valérie Gergiev, tout à fait classique. Et surtout, en dessous, Gare d'Helsinki, en partant pour la Russie, je pense, vers Saint-Pétersbourg, le train s'appelle Allegro, ce qui vous a visiblement charmé.
Amusé, oui, tout à fait. Il y avait un lien fortuit, mais assez charmant, de monter dans ce train qui s'appelle Allegro. Je me suis dit, mais ça y est, c'est... décidément, la musique me poursuit presque. Je poursuivais la musique et c'est finalement elle qui me poursuit.
Il y a une chose qui m'a semblé très étonnante au long de la lecture de votre livre, Christophe Touchard, c'est que vous faites des rencontres en très grand nombre. On se demande d'abord, est-ce que vous avez une sociabilité particulièrement développée, ou est-ce que vous avez eu de la chance, ou est-ce que vous avez prévu ces rencontres en partie? Vous avez rencontré des gens de tout pays, et y compris des Occidentaux qui étaient eux-mêmes émigrés dans le pays que vous avez visité. Ça, c'était des choses programmées?
Alors, ça va dépendre des moments. Sur les associations, effectivement, El Sistema, donc ont été une partie des rencontres. Là, en général, j'avais programmé ces rencontres en contactant les associations un peu auparavant. Il y a également eu, alors je me suis fait beaucoup accueillir par des personnes qui m'ont invité à dormir chez elles, et au travers en particulier d'une plateforme de mise en relation entre voyageurs et locaux qui s'appelle Couchsurfing, donc assez efficace. Et mon alto, je crois, m'a aussi beaucoup aidé, parce que quand je faisais des demandes sur ce site internet, j'ai souvent eu des réponses positives, voire même des fois j'avais même pas besoin de demander, je disais juste je suis en Russie actuellement, s'il y a des personnes qui veulent m'ouvrir leurs portes, n'hésitez pas. Et j'étais très étonné, en particulier en Russie, où j'ai eu beaucoup de jeunes russes qui m'ont contacté en me disant « mais viens à la maison, c'est génial ce que tu fais ». Donc ça a été des belles surprises. Et puis j'ai beaucoup utilisé les transports en commun, en particulier le train, le bus ou le ferry. Et dans ces moments-là, on voyage souvent pendant des heures. Et donc ce sont aussi des très beaux lieux de rencontre. On est tous ensemble dans un wagon. Et donc forcément, on commence à parler, le trajet aidant. On est dans un compartiment, par exemple, en Russie, des grands compartiments ouverts où il y a plein de lits, et tout le monde se met à parler avec tout le monde. Ça a été des moments d'échange facilités, je crois, par les transports en commun.
Vous dites d'ailleurs, là, pour le coup, j'ai noté la page 74, la richesse du voyage au long cours se mesure dans le temps qu'il offre aux rencontres. Voilà qui dit en très peu de mots l'essentiel, au fond. Parce que vous avez choisi, justement, de voyager long. C'est sûr que l'avion, c'est carrément un autre enjeu. Enfin, vous avez choisi vraiment le temps de presque des transports tels qu'on pouvait le concevoir presque au 19e siècle, quoi. Train,
Oui.
bus, ça aurait pu aussi bien être des calèches ou des bateaux avec très
Tout à
peu de
fait.
points.
Oui, c'était un choix alors à la fois de rêve parce que ce voyage au long cours dans le train, alors je noue une passion un peu particulière pour le train, peut-être presque une folie pour le train. Donc je me suis dit mais je peux aller jusqu'au Tibet en train, allons-y, c'est l'occasion de le faire dans ce
Sans aucun
voyage
avion.
sans
Sans
aucun avion. Oui,
aucun
tout à
avion.
fait. Oui. Et puis il y a une particularité aussi dans l'avion qui me gêne. Je trouve que c'est très violent l'avion parce qu'on est, je crois que je l'écris d'ailleurs dans le livre, hein, on est parachuté d'une culture à une autre sans transition et on se retrouve, si je prends un avion Paris-Pékin, bah, je vais me retrouver à Pékin demain au milieu d'une culture qui va me paraître très éloignée de la culture française. Alors que finalement, en voyageant en train, on voit petit à petit les cultures évoluer. C'est très progressif et il n'y a jamais de moment où on va être choqué en se disant, mais tiens, c'est extrêmement différent. Il y a toujours un lien progressif et j'ai trouvé ce lien extrêmement chouette de pouvoir voir ces cultures évoluer petit à petit. Donc
En
c'est
même temps,
un.
vous racontez de façon fascinante votre passage de la Mongolie à la Chine en disant justement, alors que ce n'est jamais qu'une frontière, là pour le coup il y a un changement de civilisation brutal, qui n'est pas lié à l'avion, mais lié au fait de deux civilisations vraiment différentes.
Oui, alors là, c'était un choc effectivement à l'entrée de la Chine, donc qui s'est fait par la Mongolie effectivement, et puis également à la sortie de la Chine qui s'est fait vers le Népal. Donc je venais d'un pays, petit pays très peu peuplé, très calme, avec des modes de vie qui sont encore assez ancestraux. Hein. Il y a beaucoup de Mongols qui vivent dans des yourtes. Et passage de la frontière, on est propulsé dans un pays extrêmement moderne. Avec une population très dense, très bruyante, très active. Et là, oui, on a un choc à ce moment-là, plus une culture de la Chine très axée sur le contrôle de la population. Et ça m'a particulièrement gêné. C'était un moment assez douloureux pour moi, que j'ai mis beaucoup de temps d'ailleurs à analyser. Et j'ai retrouvé cette liberté en refranchissant à nouveau la frontière vers le Népal, et un petit pays beaucoup plus calme. Et donc j'ai retrouvé cette liberté à nouveau en allant au Népal. Donc effectivement, vous avez raison, même si y a un lien culturel entre tous ces pays qui sont frontaliers, il peut y avoir des chocs au moment des passages de frontières.
Vous parlez du Népal, vous vous êtes mis quand même pas mal en danger physiquement en ayant des troubles assez forts et en montant dans des altitudes. L'alto a supporté ces altitudes?
Oui, alors l'alto a très bien supporté. Je l'ai amené, alors c'était au Tibet, à un peu plus de 5000 mètres d'altitude. Je ne savais pas du tout comment il allait se comporter. Les
Il n'a pas
températures avoisinaient
éclaté, il n'a
les.
pas explosé.
Non, tout s'est très bien passé. Et donc, c'est pour ça que j'en ai fait vraiment un fidèle compagnon. Je me suis dit, mais il m'a jamais lâché. Et je m'en suis d'autant plus voulu quand je l'ai oublié. Quelques temps plus tard en Malaisie, dans un bus. Donc assez impressionnant. Alors c'est pas l'alto que j'utilise au jour le jour pour faire de la musique en France. C'était un alto un peu plus solide, hein, vraiment un alto d'études. Mais néanmoins, j'ai quand même été très surpris par la solidité de cet instrument.
Thank you. première chose à laquelle, dont on n'a pas encore parlé, à laquelle il faut arriver quand même, puisqu'on est, l'émission est déjà bien engagée, c'est le fait qu'avec cet alto, Christophe Touchard, vous avez joué devant des sites exceptionnels. C'est venu tout de suite l'idée de jouer. Là, vous avez joué devant le lac Baïkal, vous avez joué au camp de départ de l'Everest. Enfin, vous avez choisi vraiment des lieux et vous avez fait un film à partir de tout ça qu'on peut voir sur votre site, c'est ça?
Tout à fait. Donc ce projet est né, alors je l'avais pas du tout planifié au démarrage, et puis c'est une Russe qui me l'a soufflé à Kazan. Elle m'a dit mais ça serait génial que tu te filmes devant la grande mosquée de Kazan. Ça a commencé comme ça et je savais pas trop quoi jouer. Et naturellement le prélude de la première suite pour violoncelle de Bach m'est venu en tête. Et jouer à l'alto, voilà, exactement. Et donc, j'ai joué ce prélude devant la mosquée. Et puis, quelques temps plus tard, je me suis retrouvé devant le lac Baïkal avec un jongleur itinérant. Pareil, j'ai sorti mon alto, j'ai commencé à jouer. Et je crois que c'est là où la révélation s'est faite. Je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de jouer. À chaque fois que j'ai un moment que je vais apprécier, un paysage que je vais adorer, je vais jouer de l'alto, je vais jouer ce prélude. Et à la fin, donc j'ai filmé à chaque fois ces interventions, et puis en retour en France, donc j'ai fait un montage, donc on entend le prélude de Bach, et on me voit jouer dans différents lieux qui se succèdent les uns après les autres.
Alors vous racontez aussi, ça j'ai trouvé ça vraiment extraordinairement séduisant, le récital que vous avez fait pour un public végétal, qui dites-vous ne risquez pas de tuer. C'était dans quel pays, j'ai oublié?
C'était en Malaisie, et j'ai effectivement été accueilli par un couple dont la femme était passionnée de cuisine et de gastronomie, et même de gastronomie française. Donc elle avait un frigo rempli de produits, et même des arbres de Provence, improbable. On est en Malaisie, on se retrouve avec un frigo rempli de produits européens. Et elle cultivait du basilic, des tomates, enfin énormément de plantes dans son jardin. Et elle m'a dit, mais ce que j'ai envie que tu fasses pour me remercier de cet accueil, c'est que tu joues de la musique à mes plantes. Je suis sûr qu'elles vont apprécier et qu'elles vont mieux se développer. Et donc, c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Et l'exercice s'est très bien passé. Et ça a été assez drôle. Et puis, effectivement, ce que je mets dans le livre qui m'a fait beaucoup rire, c'est que je me suis pas du tout fait huer ce soir-là. J'ai eu un public très calme qui, je l'espère, a apprécié.
Du thym et du basilic.
Exactement.
Alors, quand on referme le livre Christophe Touchard, on se demande avec un peu d'anxiété pour vous comment on revient à la vie ordinaire et surtout à la vie française. Vous vivez à Paris maintenant?
Oui, très difficilement. Très difficilement, il m'a fallu quand même de nombreux mois avant de me remettre dans le mode de société occidental. Et d'ailleurs, ça s'est fait avec de profonds changements dans mon mode de vie. J'ai en particulier quitté mon métier d'ingénieur pour aller vers des fonctions qui me correspondent mieux et qui sont plus proches de mes valeurs.
Plus en particulier, j'ai aussi.
Oui, tout à fait, plus indépendant. Donc aujourd'hui, je suis indépendant. J'ai gardé une casquette où je fais de la formation et de l'enseignement, donc c'est plutôt mon côté ingénieur, mais avec cette envie de transmettre et en particulier de transmettre d'une manière où j'essaie de montrer qu'on peut faire différemment, parce que je pense que c'est intéressant, enfin non seulement intéressant, mais presque essentiel aujourd'hui pour inventer le monde de demain. Et puis j'ai eu envie aussi de me laisser de la place pour la partie artistique, ce que j'avais pas forcément avant de partir en voyage.
Comment s'organisait votre métier d'altiste et votre métier d'ingénieur? Vous n'étiez pas altiste professionnel avant?
Non, tout à fait. Je faisais principalement de la musique en orchestre ou en quatuor avec des amis.
Amateur, quoi.
Exactement. Et puis au retour là, je me suis dit mais j'ai envie d'amener des éléments musicaux dans ma carrière. Et donc j'ai monté avec une metteuse en scène et une pianiste un spectacle jeune public. Donc avec cette idée de pouvoir aussi transmettre autour de la musique et de sensibiliser les enfants à différentes cultures. Donc on les emmène voyager pendant 45 minutes. Et puis une autre casquette où j'ai aussi eu envie de toujours d'éveiller, de sensibiliser avec des conférences que je fais en entreprise. Et donc là, la Chalie, pareil, musique et conférences. Donc pour offrir un format un petit peu différent et puis inspirer les collaborateurs.
grand merci à Christophe Touchard pour sa présence dans cette émission. Son livre, intitulé « Un alto pour passeport, une année autour du monde », est paru en mars dernier aux éditions Favre. À bientôt.